pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Si l'été 2022 t'a fait peur, et il y a des raisons d'avoir eu peur de l'été 2022, moi je dirais que les coupures d'eau, elles sont restées anecdotiques l'été dernier. Moi j'ai peur déjà de l'hiver 2023 et du coup des conséquences au niveau de l'été 2023. Il y a de forts risques que les pénuries d'eau, donc les coupures d'eau au robinet dans les maisons des gens, ne soient plus anecdotiques l'été prochain, mais soient vraiment monnaie courante.
Un de ces matins, tu vas, comme tous les matins sans y penser, ouvrir ton robinet. Mais ce jour-là, aucune eau n'en coulera. C'est déjà arrivé dans certains coins de France, notamment pendant l'été 2022, et c'est ce qui pend au nez de tout le monde pour les étés à venir, et pourquoi pas les autres saisons. Et c'est pas un complotisto farfelu qui vous dit ça, mais la docteure Anne Morouen-Pastier, géologue de formation, géoscientifique, compétente en hydrogéologie, chercheuse interdisciplinaire en sciences de la Terre, indépendante des réseaux universitaires, et que vous aurez déjà rencontrée lors du dernier épisode de cette série, SOS H2O, au secours. On se retrouve donc à Poitiers, dans la Vienne, et notre géologue va aujourd'hui continuer à vous expliquer un truc assez technique. La docteure Pastier a en effet scientifiquement démonté, comme disent les antibassines, désarmé un rapport de 2022 du BRGM, Bureau des Recherches Géologiques et Minières, rapport invoqué par des pro-bassines pour justifier pillage et vidage de nappes phréatiques. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off, bassine non merci, no bassaran, à nouveau avec la docteure Anne Morouen-Pastier. Bonjour Anne.
Bonjour.
Ravi de te retrouver pour cette conversation à bâton rompu. En fait, je ne vais pas forcément t'imposer de thème, mais en fait, c'est vivifiant et rafraîchissant de discuter avec toi. Donc, bah, on va parler de ce dont on va parler pendant une heure. Et j'en suis bien content et j'espère que vous aussi, de l'autre côté du poste, vous allez y trouver votre grain à moudre. Rappelle-nous ton métier, c'est géologue.
Oui, c'est géologue. Alors, géologue un peu touche-à-tout, très transdisciplinaire. Donc, je préfère géoscientifique.
Comment on se lance dans des études de géologie dans le monde d'avant ? Tu aimes les cailloux ?
Alors c'est ça qui est fou, c'est qu'à la base, les cailloux, je m'en fous complètement, quoi. J'y suis pas venue pour les cailloux. Moi, au début, j'étais en biologie marine, pour étudier les dauphins et les baleines, quoi. Et puis, en fait, pendant ces cours de biologie, ce qui m'a le plus intéressé, c'était la climatologie, l'océanographie. D'avoir une vision plus globale du système dans lequel la vie se développe, c'était plutôt ça qui m'intéressait. Et du coup, j'ai recommencé... ce qu'on appelle maintenant une licence, qui à l'époque s'appelait un DUG, en sciences de la Terre. Les sciences de la Terre, c'est la meilleure filière universitaire. C'est celle où il y a la meilleure ambiance. Quand même, on est des petites promos. On a des profs qui sont plutôt cool en général. Et puis on part sur le terrain. On part sur les volcans d'Auvergne, les plages de Vendée. Ça ne fait pas rêver comme ça, mais c'est la racine d'une ancienne chaîne de montagnes. Voilà, il y a un côté un peu rock'n'roll, quoi, souvent dans les formations en sciences de la Terre. Et c'est ce qui m'a fait rester dedans.
Le Botswana.
Le Botswana, c'est complètement un hasard, quoi. Donc j'ai eu une petite interruption dans mon parcours de formation. Je reprends mes études, j'ai plus de 30 ans, j'ai un enfant, je reprends un master, et puis derrière je vais faire une thèse, et on me propose cette thèse-là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient dans mon bureau me proposer une thèse sur le Botswana. Alors à l'époque, je ne sais même pas où c'est, je ne sais même pas que c'est un pays juste au nord de l'Afrique du Sud, qui n'est pas en lien avec la mer, dans le désert du Kalahari. Voilà, il y a ce mec qui arrive dans mon bureau qui me propose une thèse sur le Botswana dans un domaine que je connaissais même pas du tout, le GPS haute résolution. Donc j'ai regardé la déformation de la surface de la Terre pour chercher dans cette déformation la tectonique des signaux de tremblement de terre et l'hydrologie. Alors ça peut paraître bizarre, mais en fait la surface de la Terre bouge très souvent. Et notamment, si on lui met une couche d'eau, donc dans les milieux tropicaux avec la saison des pluies, on lui rajoute une grosse couche d'eau, donc elle s'enfonce, et elle s'enfonce au maximum de 5-6 cm. En mesurant précisément comment elle s'enfonce, on peut retrouver combien il y a d'eau, où est-ce qu'elle est stockée, ce genre de choses. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler sur le Botswana. C'était la seule thèse que je pouvais faire. Je l'ai prise complètement au hasard, et en fait, ça a été des aventures.
Après, tu as fait de la recherche, tu as enseigné ?
Pendant ma thèse, j'ai enseigné un tout petit peu Et après, j'ai enseigné pendant 2 ans. Je me suis fait exploiter pendant 2 ans. J'ai expérimenté pendant une année un des contrats les pires dans les nouveaux contrats d'enseignement à l'université. Donc, je vais profiter du micro tendu pour en parler parce qu'on a quand même des contrats. On fait des services de maître de conférence. Donc, on travaille autant, on donne autant de cours que des professeurs d'université. On est considéré à mi-temps parce qu'on n'a pas le droit de faire officiellement de la recherche. Et on est payé 1200 euros par mois. Et on est payé 1000 euros par mois si on n'a qu'un master. On peut être engagé. Donc vraiment, c'est pour ça que je dis que moi, j'ai été exploitée par une université.
On s'étonne qu'il y ait une fuite des cerveaux.
Bah exactement. Alors du coup, j'en viens à mon poste juste après, le poste que je viens de finir, qui a bien fini de me dégoûter de la recherche, qui était un post-doctorat. Donc après le doctorat, on peut avoir des contrats d'un, deux, trois ans pour faire que de la recherche. Et moi, je suis partie en Allemagne, parce que l'Allemagne, elle a énormément de contrats de post-doctorat qui sont, il faut le dire, très bien payés, dans lesquels on a des moyens. Quand j'ai demandé 1000 euros pour aller faire une conférence, on m'a pas dit « oui, tiens, il y a un formulaire de 10 pages à remplir pour que peut-être tu aies le droit à 500 balles ». On m'a dit « mais bien sûr ». Et on m'a rien demandé d'autre. Donc oui, je suis partie 2 ans en Allemagne. Bon, ce sont des usines où on exploite, où des gens précaires exploitent des gens précaires, en fait. C'est une chaîne de hiérarchique de domination assez incroyable, qui ne marche que parce qu'il y a des petits jeunes qui sont prêts à en découdre pour avoir une chance de faire un métier passion, quoi, en fait. Voilà. Donc je suis partie, quand tout le monde m'a dit « mais non, mais si tu veux faire de la recherche, il faut partir ». Et puis, je suis revenue récemment, là, cet été, parce que j'ai décidé d'arrêter de déménager en permanence, d'avoir des contrats précaires en permanence où on t'impose, tu n'as pas le droit de développer tes propres idées de recherche. Alors que normalement, après le doctorat, c'est fait tes preuves. Et après, on a encore besoin d'être un peu accompagné, mais on doit devenir indépendant, quoi.
Évidemment, tout ça n'est pas innocent comme questionnement. Je sais que dans le milieu universitaire de l'histoire, il y a des sujets mal polis. Et qu'avec la précarisation des enseignants, avec les contrats, précaires, machin, avec la précarisation, avec le fait qu'ils soient mal payés, avec le fait que finalement, il faut être poli avec le mandarin si on veut avoir un nonos et quelques heures à enseigner, parce que sinon on se fait virer. J'imagine que dans le monde reluisant de la science, c'est pas du tout comme ça, qu'il y a une totale indépendance. Et les grosses entreprises n'ont aucun moyen de pression sur vous, vu que vous êtes si bien équipé, si bien payé, et que c'est pas compliqué d'avoir 1000 balles pour aller faire une conférence.
Le mandarina de Gros-Ponte.
Ma question derrière tout ça, surtout, c'est est-ce que notre recherche, elle est inféodée au capitalisme ? Tiens, ça y est, on a lâché le gros mot un peu tôt par rapport à l'autre fois. Ou est-ce qu'il y a encore une indépendance universitaire de la recherche, sans pression aucune ?
Alors, sans pression aucune, je dirais pas ça. On n'en est pas à ce que toute la recherche soit contrôlée par le privé, loin s'en faut. On a encore une marge de manœuvre. On n'en a pas beaucoup, et surtout, il faut dans ces cas-là faire de la science qui ne coûte pas cher. Voilà, il ne faut pas avoir besoin de machines compliquées, il ne faut pas avoir besoin d'ingénieurs, de techniciens. On a des sujets tabous, effectivement. Enfin, on a des sujets plus ou moins tabous. On va plutôt avoir des sujets sexy, ou pas. Quand j'ai commencé mon premier stage de master, je devais faire un sujet sur les dorsales océaniques, ma grande passion. Et puis, au tout début de mon stage, mes directeurs, ils m'ont dit « Non, mais c'est pas sexy comme sujet, c'est pas porteur pour ta future carrière, il faut que tu changes de sujet. »
Dorsale, océanique, ça fait rêver.
Mais oui, des milliers de kilomètres de chaînes volcaniques à 2500 mètres de profondeur, moi, ça me fait rêver, quoi. Voilà, non, c'est moi qui ai accepté de changer de sujet de stage, parce qu'il était quand même très intéressant le deuxième aussi. Mais c'était plus à la mode, il fallait passer à autre chose, quoi. Donc des fois, on a comme ça des effets de mode. On a bien évidemment des intérêts privés qu'entrent en jeu. Du coup, de la perversion du système, c'est-à-dire que de plus en plus, donc, il faut écrire des projets pour avoir des financements, donc le financement sur projet. Moi, j'ai vu en mai au Congrès européen de géologie la présentation d'un ERC, donc un projet de recherche européen. On est sur des budgets de 1,5 million à peu près, financé sur le principe du fait que l'érosion des montagnes capte du CO2. Le gars qui présente cette recherche, une excellente recherche pour le coup, c'est la recherche fondamentale. Comment les montagnes s'érodent et le cycle chimique qui accompagne l'érosion de la montagne. Il est financé parce que c'est une source de captation possible de CO2. Donc on en vient à présenter nos projets de recherche d'une manière des fois complètement tordue, parce qu'évidemment qu'on ne va pas accélérer l'érosion des montagnes pour lutter contre le réchauffement climatique. Enfin, ou alors c'est encore pire que ce que je pense, quoi. Ça fait qu'on va devoir se contorsionner pour rentrer dans les cases et faire des liens très capillotractés parfois. Ouais, donc il y a plein de petites perversions comme ça du système. Soit c'est le chef d'équipe qui a décidé qu'on travaillerait sur cette chose, soit c'est on a des financements de Total, donc on ne va pas travailler sur le risque avec la fracturation par les gaz de schiste, parce que ça ne plaît pas à Total. Par contre, on va faire la sous-traitance de l'exploration de Total, une partie des recherches qui ont été faites sur le prochain projet de pipeline chauffé en Tanzanie et au Kenya, a été fait une partie dans mon laboratoire pendant ma thèse par des doctorants. Et il était impossible pour moi, qui était pourtant indépendante, je pouvais discuter des problèmes que ça impliquait dans les bureaux avec des personnes qui pouvaient partager mon opinion. Mais c'est impossible d'aller dire du mal de Total une fois sorti d'un bureau, quoi. En fait, dans une réunion, dans un conseil d'administration. Ils représentent tellement, ils financent une partie du master. Donc on ne peut pas se passer de Total parce qu'ils financent l'enseignement public. L'enseignement public dépend à ce niveau-là de fonds privés. Enfin, Donc c'est pareil qu'avec le cycle de l'eau et le sol et tout ça. On a plein d'interactions dans tous les sens et on a des cercles vicieux ou des cercles vertueux. Et là, oui, on est... Donc on a encore une marge de liberté, je ne vais pas dire voilà, mais on est sur une pente descendante d'un cercle méchamment vicieux.
Revenons-en aux mortifères méga-bassines et à leurs promoteurs de l'agro-industrie qui, pour justifier l'usage des bassines dans la Vienne, peuvent invoquer un rapport de 2022 du BRGM, Bureau des recherches géologiques et minières. Or, début février 2022, la docteur Pastier a publiquement présenté les conclusions d'une étude qu'elle a faite et qui démontre que ce fameux rapport du BRGM répond mal à une question mal posée. Alors pour désarmer un rapport scientifique, il faut avoir des connaissances. Mais ce travail nécessite-t-il de gros moyens techniques ?
Techniquement, ça ne m'a pas pris beaucoup de moyens, non. Moi, j'ai ouvert un PDF, j'ai lu ce qu'il y a dedans, je me suis servi de tout mon bagage géoscientifique. Par contre, j'ai fait des études statistiques très simples. Moi, j'ai regardé des choses, mais très très simples. J'ai regardé quel cours d'eau était dans le modèle. C'est un grand modèle régional, on ne peut pas mettre tous les petits ruisseaux, tous les petits cours d'eau, c'est normal. Il y a une bassine qui a quasiment tous ses pompages à la source d'un petit cours d'eau qui s'appelle la Subite. Et ce cours d'eau n'est pas dans le modèle. Or, un des impacts qu'on se demande, c'est est-ce que le remplissage de la bassine de Prière va permettre un écoulement du cours d'eau en hiver ? J'ai juste ouvert la chose, vu que le cours d'eau n'est pas dans le modèle. Réponse, non, le modèle ne peut pas évaluer l'impact. J'ai fait des choses très très simples et quand j'en parle à beaucoup de gens qui ont essayé d'ouvrir ce rapport, en fait, personne n'est très surpris et tout le monde avait un peu cette intuition qu'il y avait un truc qui clochait, que leur graphique c'est n'importe quoi, mais de soi pas oser parce que justement c'est le BRGM et qu'on remet pas en question la science quand on est un citoyen lambda, soit de pas avoir de méthode. Moi, ce que j'ai surtout acquis, c'est une méthode. J'ai fait un tableur, j'ai relevé mes valeurs, j'ai fait la différence, j'ai fait un graphique. Voilà, je suis rodée à l'exercice. Quelqu'un qui n'a pas cette méthode de travail, qui n'est pas habitué à ça, ne va pas savoir par quelle boule prendre. Il y a des moments, c'est vraiment plein d'incohérences. Plus l'argument est mauvais en face, plus des fois, c'est difficile de le démonter. Le coup du cours d'eau qui n'est pas dans le modèle, c'est même désemparant, quoi. On s'attend à un raisonnement compliqué, et puis moi, je vous dis juste, mais le cours d'eau, il n'est pas là. C'est ça que j'ai amené surtout. J'ai pas fait de choses très compliquées. J'ai amené une méthode, une rigueur, et puis le fait que j'ai un certain bagage et que je peux aller parler sereinement à une hydrogéologue et lui dire que je suis pas d'accord avec sa méthode et lui expliquer pourquoi.
Finalement, au citoyen lambda qui a pas tes connaissances, en conclusion, au café du commerce, j'ai bossé sur un truc et ma conclusion est que.
Ma conclusion en une phrase, ou un petit peu plus. Moi, je peux faire des niveaux de lecture différents. C'est que le BRGM répond mal à une question qui est mal posée. Et pourquoi il répond mal? C'est parce qu'il utilise un outil qui n'est pas pertinent, qui est mauvais pour modéliser l'amplitude du cycle hydrologique dans les nappes. Or, c'est exactement ce qu'on veut regarder pour la substitution. Donc, s'il modélise mal l'amplitude, il ne peut pas regarder bien l'impact de la substitution. Et puis, c'est un modèle qui est trop large, trop régional, qui marche très bien sur des tendances, mais pas sur les saisons et pas à toute petite échelle. Le marais poitevin est classé en zone Natura 2000, il est protégé. On a des petites aires qui sont encore plus protégées, des petites zones humides qui sont protégées par arrêté préfectoral. C'est impossible, avec un modèle régional aussi grossier, je dirais, d'aller regarder quel va être l'impact de telle bassine pendant son remplissage sur cette petite zone humide avec ce modèle. Donc, en fait, le problème d'un modèle numérique, c'est qu'on le fait tourner, on aura toujours un résultat. Est-ce que les résultats sont significatifs ou pas? Quand on regarde, on a 19 stations. Quand on regarde, on en a deux où on voit un effet des bassines significatif, c'est-à-dire qui est supérieur à l'erreur du modèle par rapport aux données qu'on observe. On a 13 stations sur 19 où on a quelques centimètres d'amélioration. Et en fait, c'est là où le BRGM va se permettre de dire on a une amélioration globale du niveau des nappes de quelques centimètres par rapport à donc une erreur qu'on a estimée à 1,20 m, voire 2,20 m. Si j'ai ça comme résultat de mes modélisations numériques, je conclus que mes résultats ne sont pas significatifs, que je ne peux pas me prononcer et que non, je n'aurai pas un effet significatif d'amélioration de mes cours d'eau ou de mes nappes avec ces scénarios de bassines.
Donc si je restitue ce que tu viens de dire, finalement là, avec ces bassines, certains jouent aux apprentis sorciers sans avoir finalement idée de quel impact ça va avoir et sur une assurance scientifique qui est contestable. Mm-hmm. Donc en fait, on se lance à faire n'importe quoi sans savoir vraiment quel effet ça va avoir en fait. C'est ça qu'on peut en déduire de ton étude.
Ouais, exactement. On fait des travaux gigantesques alors qu'on ne sait pas ce que ça va donner, qu'en perspective du réchauffement climatique. Alors, un truc qui n'est pas très bien fait dans le rapport, on ne sait pas trop, est-ce que ces bassines vont pouvoir être remplies? Et donc, dans la perspective avec des températures plus importantes et des précipitations plus aléatoires, est-ce que vraiment ils vont pouvoir les remplir ne serait-ce qu'une année sur deux, en fait? Et donc, on se lance effectivement dans ces grands travaux sans envisager la conséquence. Moi, ce que je vois en tant que personne qui s'intéresse au paysage, c'est que sur des hectares, on a tué complètement le paysage. Pendant des siècles, à moins qu'on mette en place des gros protocoles de remédiation, pendant des siècles, ces hectares-là, ils sont inutilisables. L'eau des pluies ne s'infiltre plus dedans, il n'y a pas de sol, c'est complètement tassé. Donc il n'y a plus rien qui pousse. On a des photos de la bassine de Vivonne qui s'est fissurée dans le fond au premier remplissage et qui après a été abandonnée. Quelques années plus tard, on a des petits buissons, ils n'ont rien fait, hein. Ils n'ont pas touché à la bassine, il n'y a plus de bâches quand même. Et on n'a rien qui pousse. J'invite les gens à aller voir Vivonne au sud de Poitiers. On voit la bassine sur Google Earth. On a un énorme rectangle blanc avec un petit arbuste, enfin une espèce de petit buisson qui a réussi à pousser d'un côté. Et sinon, c'est le caillou qui est à nu. On a un peu de mousse au fond, un peu de... voilà. Il y a des flaques parce que l'eau, elle ne s'infiltre même pas. Donc, on a tué ce paysage. En tout cas, on l'a mis en dormance pendant quelques siècles, là, si on... C'est ça qui me fait assez mal au cœur. C'est ce côté, on n'en a rien à foutre. On tente quelque chose, on bousille complètement une surface agricole et on s'en fout, quoi.
On rappelle, une méga bassine, ça peut mesurer jusqu'à plusieurs terrains de football. Mmh. Et c'est un modèle d'agro-industrie qui a commencé à s'implanter un peu partout sur le territoire. Et ça éclot partout, ces horreurs. Et ça me ramène quelques années en arrière sur la lutte de Notre-Dame-des-Landes. Je disais, il s'agissait de préserver un morceau du bocage nantais, les routes pour y aller, la piste d'atterrissage. C'est vrai que ça bousillait un peu de surface agricole. Mais finalement, je me dis, Notre-Dame-des-Landes, à côté de ce truc que tu es en train de raconter, là, des méga-bassines, mais c'était du pipi de chat, c'était rien du tout. Là, ce qui se passe aujourd'hui avec les bassines, c'est une autre échelle dans la monstruosité. Il y a en fait un monde d'avant et un monde d'après. Hein. Le monde d'avant préparait bien l'horreur d'après. Mais...
Ouais. Mais c'est vrai, après, je connais très mal le projet qu'aurait dû être fait d'aéroport, parking autour et tout ça, donc c'est quand même énorme. Mais oui, c'est vrai que c'est très important de le dire, ça c'est un modèle qui se répand partout. Ça fait quand même 10 ans qu'il est expérimenté en Vendée, qu'il n'y a pas eu de mouvement d'opposition. Et là, on a un projet de 30 bassines dans la Vienne. Donc, non, déjà, visiblement, il va être réduit. On a des bassines dans le Berry, dans le Finistère. On a une bassine privée qui se construit là dans le Vexin. Un privé qui a décidé de se construire sa bassine. On a les bassines de la Clusaz qui servent à l'enneigement artificiel. On en a dans les Pyrénées. La nouvelle solution miracle qui va sauver l'agriculture. Et elles fleurissent partout. Et elles passent en force, en fait. C'est quand même ça qu'il faut signaler, c'est que c'est un modèle qui passe en force. Je disais la dernière fois, il y a des recours juridiques contre le projet des 16 bassines de la COP de l'eau. Mais ces recours, ils sont jamais jugés assez urgents pour être suspensifs. C'est-à-dire pour que les travaux s'arrêtent. Donc c'est pour ça que Bassines en Mercie, on demande un moratoire sur les bassines pour arrêter d'artificialiser ces surfaces, que déjà on se pose et on réfléchisse. Parce que l'État et les irrigants et les constructeurs passent en force la construction des bassines systématiquement, malgré des recours juridiques. Et très récemment, on a eu le dernier épisode du parcours juridique des bassines de l'Azay des Roches. Donc on est en Charente-Maritime, vers les communes de Cranchaban, La Laigne, donc dans le même territoire à peu près que les 16 bassines là. Et très récemment, les irrigants avaient déposé un recours en cassation. Et le tribunal a refusé de statuer sur ce recours en cassation. Donc c'était le dernier épisode de l'histoire juridique de ces bassines. À chaque fois, l'autorisation a été retoquée par la justice. À chaque fois, la justice a dit non, ne construisez pas ces bassines, ce projet est illégal. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faudra aller demander aux associations de protection de l'environnement ou aux fédérations de pêche. Mais à chaque fois, la justice a déclaré ces bassines illégales. Et à chaque fois, l'État et les irrigants, les préfectures ont délivré les autorisations quand même. Les irrigants ont fait construire les bassines. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des bassines qui existent, qui sont en activité, où toutes les canalisations autour sont raccordées, comme ils ont bouché des forages. Le seul moyen maintenant pour les irrigants d'avoir de l'eau, c'est de prélever par les forages des bassines, de remplir les bassines et de rebalancer derrière dans les champs. Même sans le principe de la substitution. Si on arrête le principe hiver-été, ils devront faire ça en été. Et donc, on se retrouve avec des bassines complètement illégales, mais qui sont construites. Et on n'a aucune idée de comment on revient en arrière, de qu'est-ce qu'on fait de ces bassines, comment on remédie, comment on soigne ces paysages pour qu'ils redeviennent une part entière de l'écosystème, en fait.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Autour, il y avait le silence. Les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur. Se baigner tout nu, tout noir, avec les petites filles et les canards.
La maison près de la fontaine de Nino Ferrer. Respirez un peu au cœur de cette nouvelle rencontre avec la géoscientifique Anne Morouen-Pastier. En 1971, Nino Ferrer avait déjà bien compris l'horreur écologique qui continue à s'abattre sur nous. Alors évidemment, il ne pouvait pas prévoir les mortifères mégabassines dont le remplissage induit le vidage des nappes phréatiques. Mais la fontaine près de la maison de Nino Ferrer va peut-être bientôt arrêter de couler. Depuis la manif anti-bassine de la Rochénard fin mars 2022, dont je suis rentré traumatisé comme plein de gens sûrement, je fais ce cauchemar en fait et des fois je m'emporte quand j'essaye d'expliquer les bassines. Bon, la polémique c'est le bof, on fait de la caricature, donc évidemment des fois je force le trait et je me dis mais est-ce que je force le trait quand je dis que avec ce modèle d'agro-industrie, avec ces pompes très puissantes qui pompent donc les nappes phréatiques, je dis oui, vous vous rendez compte, là, ils vont les vider. C'est ça aussi un danger qu'on... Voilà, admettons que ce modèle continue de méga-bassines avec les pompes, continue à s'installer sur le territoire. Donc voilà, on installe ces pompes partout, on remplit ces bassines. Alors bon, t'as raconté au dernier épisode, non seulement en plus l'eau va s'empoisonner avec des algues et des machins, des cyanobactéries qui vont pousser dedans, elle va s'évaporer aussi pour aller on ne sait où. Et puis... J'ai aussi des amis là qui siègent au comité de bassin Loire-Bretagne et au Parlement de Loire qui ont des interactions et des échanges avec des agro-industriels en face. Ils ne sont pas tous débiles. Il y en a qui ont compris aussi que d'un point de vue simplement capitaliste et économique, quand ils auront pompé la ressource eau jusqu'à la dernière goutte, ça va être compliqué d'irriguer le maïs et donc de faire des sous. Non mais même en face, ça branle dans le manche en fait. Je crois avoir eu vent aussi que dans certaines préfectures, il y a des préfets qui doutent un peu. J'en reviens à ma question là. Si on continue dans cette voie-là, allez, youpla les bassines, on y va, et vas-y les pompes et machin, est-ce que ces nappes, elles vont être vidées, nos nappes, parce qu'elles sont à nous, c'est un vital commun. Hein. C'est très étonnant d'ailleurs qu'il soit privatisé quand il arrive dans les bassines, alors qu'il appartient à tout le monde. En pompant à mort comme ça, on risque ça, le vidage des nappes?
Alors, pour répondre déjà à cette dernière question, on vide déjà les nappes. Bon, ça dépend ce qu'on appelle vider les nappes. C'est plus compliqué que ça. Hein. On a des géométries, on a des nappes qui peuvent être à sec d'un côté, puis en fait, comme la couche est penchée, c'est plus facilement à sec sur les bords de la couche penchée qu'au milieu, quoi. Donc c'est plus... Dans la Vienne ici, on est arrivé au niveau minimum de certaines nappes, c'est-à-dire que c'est une couche de roche sédimentaire, généralement, qui a une certaine épaisseur. Une fois que le niveau de la nappe il est arrivé en bas de la couche, bah, il n'y a plus d'eau dans la nappe. Oui. Et on est ici sur le bassin du Clain. On est allé l'autre jour faire une petite manifestation pour dire au revoir au commissaire enquêteur à propos de l'enquête publique sur le projet de bassine sur notre territoire. Sur ce petit bassin de la Palue qui est massacré, hein, qui est plus que des champs à nu, tout orange de Roundup, on a un piézomètre qui doit servir d'indicateur en remplissage des bassines, machin et tout. Cet été, il est arrivé plus bas que le bas de la nappe. Alors, moi, là, j'ai pas compris, mais c'est comme s'il avait enclenché un mode sécheresse. Il s'est mis vraiment au minimum jamais enregistré. Et il lui a fallu quelques mois là, pour en sortir. Donc là, sur ce piézomètre-là, dans ce bassin versant-là, oui, on a vidé la nappe. C'est pour ça qu'ils mettent en place les méga-bassines, en fait. C'est parce qu'on voit bien qu'on arrive à l'épuisement des ressources, en fait. On a une certaine, on pense en tout cas qu'on a une certaine genre quantité d'eau disponible par an. Et en fait, selon comment on regarde, bah, on prend tout ce qu'on peut prendre sans en laisser. Voilà, et encore une fois, plus on prend, si on laisse pas un minimum de base, en fait, soit on laisse un minimum de base, tout est à peu près humide et tout se passe bien, soit on assèche tous les ans. Dans ce cas, nos aquifères, donc les roches qui maintiennent l'eau, ils vont perdre leur capacité de stocker de l'eau. Les zones humides, elles perdent leur capacité à stocker de l'eau aussi. Donc, oui, je suis désolée de le dire, je suis désolée de ne pas être très encourageante, mais on arrive déjà à la limite du système, en fait. On vide déjà beaucoup les nappes, oui.
J'avais l'espoir que ta réponse serait super compliquée et que je ne la comprendrais pas, mais non, en fait, c'est très clair. Bon.
C'est-à-dire que pour aller un petit peu plus loin, là, il faut partir sur les trucs très compliqués, mais en fait... C'est ça qui est assez désemparant, moi, quand j'explique des choses aux gens, ils me disent « mais ouais, c'est pas si compliqué, en fait ». Ben non. Après, on a beaucoup de réflexes dans le monde scientifique. Déjà, on a des mauvais réflexes dus à notre entre-soi, on se parle avec un jargon dont on a besoin entre nous. Mais du coup, on a du mal à se rendre compte que les personnes en face de nous n'ont pas le même référentiel, quoi, le même vocabulaire, etc. Et puis, il faut bien le dire, il y en a toute une partie des scientifiques qui n'ont pas envie de diffuser ses connaissances. L'aura du scientifique dans sa blouse blanche qu'on appelle docteur, c'est pas un mythe, quoi. Ça existe. Moi, quand j'arrive dans un endroit et que je dis à quel moment ça arrive dans la conversation que je suis docteur, des fois, je sens un changement de comportement chez les gens. Dans tout le rapport de domination, Parce que du coup, dans l'échelle des classes sociales, ben, on devient de fait un peu plus élevé que le citoyen lambda. Et c'est à nous d'aller faire l'effort. J'ai pas envie de dire de nous mettre au niveau des gens, mais de nous remettre dans un état d'esprit de personne normale, en fait. C'est à nous de faire ce travail intellectuel et d'aller expliquer.
Là, j'ai compris, hein, la phrase elle est simple. Oui, en pompant dans les nappes, ils sont en train de les vider, c'est déjà en train de se passer.
Bon. Quand il y a des conférences scientifiques qui sont organisées et avec des scientifiques qui ne vont pas sursimplifier non plus les questions, mais qui vont juste les rendre abordables, les gens viennent. On est très surpris, mais les gens viennent. Les gens, je sais que c'est un peu bizarre.
Les gens, ils boivent de l'eau. Hein.
Ouais, puis sur d'autres questions d'environnement, enfin de santé ou quoi. Moi, je pense que les êtres humains ne sont pas fondamentalement cons et qu'ils ont envie d'avoir des informations, mais qu'effectivement, comme c'est des sujets complexes, bah, faut savoir un peu les simplifier. Mais en fait, bah, c'est pas si compliqué. Mais c'est très pratique aussi pour le pouvoir en place de brandir un rapport scientifique et de mépriser les gens qui n'ont pas fait des grandes études en leur disant ah, « de toute façon, vous ne pouvez rien comprendre, mais tel expert dit que ». Mais en fait, bah, y a plein de discours d'experts, on peut les détricoter assez facilement. S'ils se mettaient à nous les expliquer avec des mots courants, bah, y a quand même beaucoup de gens qui seraient capables de dire « mais vous moquez de nous, là, c'est pas possible ».
Tu vois, moi, j'ai fait des études littéraires, bohèmes, donc j'ai pas de culture scientifique ou même juridique. On construit des bassines et la loi n'intervient pas, en fait. Enfin, la justice n'est pas là et on fait n'importe quoi au détriment de tous. Et je me retrouve des fois à dire à des enfants de potes « Ah, tu fais du droit ? Très bien, parce qu'on est dans un monde de droite, un monde de droit. Bah, ce serait bien qu'il y ait des juristes qui montent au créneau pour dire « Attendez, la bassine, là, elle a été construite en toute illégalité et la justice n'intervient pas, il se passe rien. » Et pareil sur la science, je pense au fils d'une amie qui travaille dans la biologie marine. Vas-y, parce qu'on va avoir besoin de gens qui vont avoir tes compétences, qui ont ces compétences-là et qui vont pas bosser pour le système capitaliste. Donc voilà, c'est terrible, mais on a besoin de scientifiques et de juristes.
Alors,
aux gens qui vont encore se lancer dans l'aventure de faire des gosses alors que c'est la fin du monde, faites-nous des avocats et des scientifiques et des géologues.
Ouais, alors pour revenir sur le cas de la Z des Roches, là, les bassines qui ont été déclarées illégales, c'est assez rigolo parce que la justice, pour le coup, a agi, ce qui n'est pas le cas dans d'autres dossiers. Mais la justice a agi. Ce qui n'a pas agi derrière, et même qui a agi à l'encontre de la justice, c'est l'exécutif. C'est les préfectures, donc c'est l'État. Et c'est aussi, on a une police de l'eau. Alors, on n'est pas trop au courant, mais on a une police de l'eau qui a des effectifs qui sont ridiculement petits. Donc, la police de l'eau est censée vérifier si les compteurs, la valeur qui est marquée sur le compteur d'eau est bien celle qui est déclarée par l'irrigant, par exemple, tout simplement, en fait. On se rend compte que bah, quand il y a des contrôles, c'est pas toujours les mêmes valeurs. Et la police de l'eau, donc oui, comme on pourrait faire un parallèle avec... les services fiscaux, hein, c'est des choses...
Je pense justement à tous ces services dont on aurait bien besoin. Les inspecteurs des finances, ouais. Hein, pour traquer l'évasion fiscale, les inspecteurs du travail. Et donc, tu me dis, il n'y a pas d'effectifs dans la police de l'eau. Eh bien, je ne suis pas surpris.
Et oui, et c'est bien pourtant une police dans laquelle on aimerait bien qu'il y ait un peu plus d'effectifs par rapport à celle à laquelle on est habitué. Voilà, et ça, c'est l'exécutif pour le coup. Donc là, c'est l'État, c'est plus la justice, quoi. Sur l'histoire du droit de l'environnement. Donc, il y a un formidable historien des sciences qui s'appelle Jean-Baptiste Fressoz, qui, dans ses conférences qu'on peut trouver très facilement en ligne, parle un peu de l'histoire du droit de l'environnement. Et c'est assez intéressant ce qu'il dit. Alors, je vais très simplifier, je m'excuse s'il écoute cette émission. Mais en gros, une des premières polices, c'était une police de l'environnement qu'on appelait pour si notre voisin il déversait des saloperies dans la rue, quoi, par exemple. Et puis quand il y a eu les premières usines et tout, donc il y a eu des riverains qui se sont plaints, etc. Bon, je passe beaucoup de détails avec les gros propriétaires du coin, évidemment. Et puis du coup, il y a eu la première loi sur l'environnement. Il me semble que c'était avec les savonneries qui rejetaient de la soude. Et en fait, la première loi sur l'environnement, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a mis un seuil. Et en fait, ça a été un droit de polluer. Voilà, je suis très tiraillée hein, sur ces questions-là, mais en tout cas, si on laisse le droit dans les mains des probacines, dans les mains du système capitaliste, évidemment que ça va être une arme qui va être construite contre nous. Et on a besoin de juristes, évidemment. Et moi, je les remercie parce que je trouve que c'est un métier très laborieux. Enfin, il y a beaucoup de textes à lire, à analyser, et tout ça. Et voilà, merci beaucoup les juristes, par exemple, des associations de protection de l'environnement, quoi.
Et on est passé par ces questions-là avec les débats. Alors certes, c'est très anthropocentré, etc. Sapiens, qui représenterait des milieux naturels dans les tribunaux de Sapiens. Enfin bon, mais voilà, on a évoqué ces questions-là aussi avec le Parlement de Loire et cette idée de doter des milieux naturels, en tout cas du vivant non humain, d'entités ou de personnalités juridiques. T'en penses quoi ?
Alors j'ai entendu parler de ça très récemment. J'ai pas encore eu le temps. Alors, trop de...
Exemple du Whanganui, je crois que c'est le nom de ce fleuve en Nouvelle-Zélande, qui est aussi le nom du peuple qui vit en osmose. D'accord. Avec ce biotope-là. D'accord. Et donc il y a cet exemple néo-zélandais, en fait, parce que ces gens, ces indigènes, vivent avec leur fleuve, donc ils sont leur fleuve. Mmh. Il y a assimilation entre ces sapiens-là et leur biotope. Mmh. C'est d'ailleurs le mot, je crois, du fleuve, qui doit être Whanganui, désigne et le fleuve et le peuple. Là, la question a été brassée avec le Parlement de Loire. Y a-t-il un peuple de Loire ? Demandait Gilles Latour.
Bon, alors, je n'irai pas jusqu'au peuple de Loire et tout ça, mais après, de donner une existence légale à des cours d'eau ou tout ça, je suis très partagée dans l'idée. Les considérer comme des objets vivants ou des choses comme ça, alors là, moi, ça ne me choque pas du tout. Moi, je regarde des fois l'histoire d'une rivière sur des centaines de milliers d'années. Donc je la vois bouger, je la vois évoluer. Enfin, je la vois évoluer, je me fais des films dans ma tête. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose de vivant. Donc dans l'esprit, dans la philosophie de la chose, je suis complètement pour. Voilà, ça nous permettrait justement de libérer un peu nos cours d'eau. Donc tout à fait d'accord. Ce dont j'ai peur, c'est d'une dérive. D'une dérive justement du droit de l'environnement. Et à partir de quel moment... Eh bien, alors, on va reconnaître la Loire comme cours d'eau, on va reconnaître la Sèvre Niortaise comme cours d'eau, mais on ne va pas reconnaître le petit ruisseau de la Subite, par exemple. Et une fois que ce sera inscrit dans la loi que la Sèvre Niortaise est reconnue comme une entité légale, mais pas la Subite, eh bien, elle est condamnée à mort, en fait. Comme dans l'inventaire des cours d'eau, il y a un énorme enjeu dans l'inventaire des cours d'eau qui se fait. Ils ont défini des critères, alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je ne maîtrise pas exactement, mais... Ils ont défini des critères qui font qu'il y a des cours d'eau qui ont été rayés des cartes. Ça permet de plus y faire attention. Ça permet que s'il y a un forage pas loin et que le cours d'eau il est à sec, on s'en fout, c'est pas un cours d'eau. Donc voilà, dans l'esprit, je suis de 100% d'accord. Est-ce que stratégiquement, c'est une bonne idée ou est-ce qu'elle va se retourner contre nous ? C'est là où j'ai des réserves, quoi. Voilà.
De toute façon, cette horreur des méga-bassines, finalement, on ne va pas avoir à lutter pendant très longtemps contre, dans la mesure où, quand ils auront vidé les nappes, bah, on sera dans autre chose, mais où il n'y aura plus ça, puisqu'il n'y aura plus de ressources.
Oui, effectivement, hein, voilà, on peut le voir comme ça. Hein.
C'est de positiver un peu.
Oui, mais s'il y a plus d'eau, il n'y a plus d'être humain, quoi. Donc il n'y a plus de lutte, ouais, ça c'est sûr. Quoi. C'est... Ah ben, il n'y a plus de bassines, mais il n'y a plus de lutte.
Non mais voilà, pour le temps qui nous reste, alors évidemment c'est pas en tant que géologue que tu vas parler, mais en tant qu'être humain qui discute avec d'autres et qui lit et tout ça, et qui a un avis sur les choses, je t'orientais vers cette histoire de Parlement de Loire et de justice. La semaine dernière, on se disait, bon, peut-être que ce paysage de bocage en tant que réserve d'eau, qui a fonctionné en fait pendant des siècles tellement mieux qu'une méga bassine, c'est-à-dire ces haies, ces fossés, ces méandres, qui avait le temps de nourrir les nappes phréatiques, etc. C'était peut-être pas idéal, mais c'est une technologie en fait qui a fait ses preuves. Je cherche à finir l'émission sur une note un peu positive. On fait quoi ? Il y a quelque chose aussi que j'ai cru comprendre, c'est que pour notamment les besoins de l'agro-industrie, on a accéléré le cycle de l'eau, on a notamment canalisé et bétonné beaucoup de rivières. On a eu à Mer, à Tours, Jean Royer qui avait le projet délirant de bétonner la Loire, en fait, hein, comme ça a été fait partout. Bon, il n'a pas réussi, c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut s'extasier et dire « Oh, la Loire, ces bateaux en bois, c'est tout, ces gabarres, ces futraux, formidable, patrimoine mondial de l'UNESCO. » Bah oui, mais en fait, parce qu'il y a des gens d'une association, une lutte qui s'appelait Loire Vivante, qui a fait en sorte qu'on bétonne pas la Loire pour foutre des centrales hydroélectriques tout le long. Et... Donc tout ça pour me poser la question en disant « Bon voilà, recréer du paysage de bocage, reméandrer les rivières ». Alors là, je m'adresse à nouveau à l'hydrologue, c'est-à-dire faire que les rivières serpentent, plus, s'écoule moins vite. Est-ce que ce serait une piste de remodeler nos paysages ?
C'est complètement une piste, hein. Ce qu'on appelle la rectitude des cours d'eau. C'est-à-dire le fait qu'on a retaillé les cours d'eau pour qu'ils aillent bien droit, que dans certains endroits, comme sur le petit bassin de la Palue, on a fait des fossés pour drainer les champs. Il fallait qu'ils aillent bien droit et qu'on évacue le plus possible l'eau vers la mer. Dans le bassin versant du Marais Poitevin, c'est aberrant parce qu'on construit des bassines en amont. Et en aval, par contre, on draine, parce que sinon, on a trop d'eau et on ne peut pas faire d'agriculture. Donc, on évacue l'eau en bas, mais on essaie de la garder en haut. Évidemment que oui, tout ça, il faut alors pas exactement revenir en arrière, hein, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il faut trouver des solutions pour réaménager tout ça. Comment faire concrètement ? Là, moi, je vais passer un petit peu, mais c'est sûr qu'il faut laisser les rivières reprendre un cours à peu près naturel, ou les encourager, hein, ça, voilà. Où ils se reméandraient. Donc les méandres, hein, c'est quand ça fait des boucles. Le problème des méandres, c'est que ça bouge. Et que du coup, quand vous êtes, par exemple, un propriétaire foncier, vous avez sur votre cadastre votre borne qui vous limite votre propriété privée de votre champ. Bah, si vous laissez la rivière bouffer votre borne, vous avez plus de il vous manque un bout de champ, en fait. Je pense que c'est beaucoup pour ça qu'on a, on a pensé qu'on pouvait dresser nos rivières, les rivières dans les villes. Il faut imaginer ce que ça veut dire. Est-ce qu'on laisse le cours d'eau libre dans une ville ? Est-ce qu'on laisse la possibilité à un cours d'eau d'éroder des maisons, de se déplacer vraiment ? J'imagine pas Paris laisser la Seine se déplacer, par exemple. Donc effectivement, moi je pense qu'il faut aller vers ce genre de solution. Et c'est le genre de solution simple à mettre en place, vertueuse, qui amène des interactions où tout se passe un petit peu mieux. Mais ça pose des grosses questions philosophiques, quoi. Juste, oui, au niveau hydrologie, géomorphologie. Donc, plus on a des méandres, plus le cours d'eau met de temps à circuler. Enfin, l'eau dans le cours d'eau met du temps à circuler. Et donc, plus, quand il a plu, les pluies s'accumulent dans la rivière. Et si elle met plus longtemps à circuler dans le cours d'eau, bon, bah, elle va avoir plus de chances de s'infiltrer et de venir recharger les nappes. Les méandres des rivières, ça fait complètement partie du système et de ce qu'il faut développer pour réapprovisionner ces nappes et qu'on arrête d'arriver jusqu'à la limite basse, quoi. Ça pose des questions complètement philosophiques, en fait. Qu'est-ce qu'on met en priorité ? Est-ce qu'en priorité, on veut avoir un environnement bien ordonné où on peut prédire quel stock on va avoir en amont, quel stock on va produire, combien on va faire de profit ? Alors que, bon, bah, en plus, le problème, c'est que ce modèle-là, comme notre environnement, notre climat, tout ça va changer, donc on va pas pouvoir contraindre tout ça très longtemps. Voilà, ou est-ce qu'on se met à vivre avec un environnement qui change, qu'on maîtrise pas forcément ? Bah oui, peut-être qu'à un moment, on va pas construire une maison à tel endroit parce qu'elle a des chances de se faire éroder, enfin de partir avec la rivière. Ou est-ce qu'on bétonne la rivière ? C'est un choix de société, quoi. Moi, j'ai pris parti depuis bien longtemps sur le fait qu'il faut vivre avec ces changements. Quand je vois des cours d'eau tout droit aller directement à la mer et puis des pompes pour aller mettre ça dans des réservoirs, enfin, rationnellement, c'est aberrant. Sensiblement, moi, ça me fait un mal terrible. Alors que voilà, on a des solutions simples à mettre en place, mais le problème, c'est que ces solutions, elles ne ramènent pas d'argent. Elles sont bonnes pour le bien commun, mais elles ne sont pas bonnes pour la classe dominante qui gouverne et qui gouverne à son profit.
Et encore même pas, parce qu'une fois de plus, si la ressource eau, elle est épuisée, le système basé sur ce pillage, il s'écroule. On arrête de faire du maïs et machin. Alors qu'une agriculture qui ne rapporte pas forcément beaucoup sur le moment, mais qui dure et qui fait qu'en plus, Sapiens peut continuer à vivre à peu près avec son biotope, c'est mieux. Enfin, je veux dire, voilà, quand on sera tous morts, ils en feront plus du pognon.
L'hydrogène sulfuré. Les naissance. La guerre, la société. Ce n'est pas si mal. Et c'est normal. C'est le progrès.
Avant de finir cette conversation à bâton rompu, alors c'était pas scientifique du tout, hein, protocolairement, c'est assez limite, ouais, voilà, c'est bon. Mais en tout cas, chouette rencontre humaine, et c'est ça le principal, on espère que vous appréciez, vous qui êtes de l'autre côté du poste. On parlait de, mais qu'est-ce qu'on fait? Et cette question-là, on est nombreux et nombreuses à se la poser. Quelques mots sur le collectif Bassine Non Merci. Qui est là-dedans? Qu'est-ce qu'on y fait?
Alors Bassine Non Merci, c'est un collectif informel. Il n'y a pas d'existence légale, donc il y a plein de gens différents dans ce collectif. Et puis, il y a beaucoup d'organisations qui amènent leur soutien, qui participent, qui font partie du collectif. On a, pour la dernière manifestation à Sainte-Soline, il y avait plus de 150 organisations qui soutenaient l'événement. Et ces mobilisations, ou ces événements, ils sont organisés conjointement entre Bassine Non Merci, qui est un collectif qui est né dans le 79, même si aujourd'hui il y a Bassine Non Merci 86, 29, Berry, etc. Et Bassine Non Merci, d'abord sur ce collectif, il y a énormément de gens différents à l'intérieur. C'est très appréciable, quoi. C'est assez incroyable. Il y a énormément de gens qui savent faire beaucoup de choses et qui se complètent et qui travaillent ensemble pour essayer d'avancer dans cette lutte. Dans ces organisations qui soutiennent ou qui sont plus ou moins impliquées dans le collectif, il y a des syndicats, des unions locales de CGT, de Sud et d'autres que j'oublie.
La Confédération Paysanne?
Oui, il y a la Confédération Paysanne. Parce que là, par exemple, l'événement, c'est la Confédération Paysanne, Bassine Non Merci et les soulèvements qui organisent avec le soutien de la Fondation Daniel Mitterrand. Donc, des fois, la Confédération Paysanne prend une position un petit peu à part parce qu'on a des fois des moyens de lutte, certes complémentaires, qui ne s'opposent pas du tout, mais qui des fois ne vont pas agir ensemble.
Tu as mentionné les soulèvements de la Terre, c'est intéressant, on essaiera de vous faire des émissions là-dessus, c'est très intéressant. Allez voir déjà sur internet les soulèvements de la Terre.
Surtout qu'ils vont peut-être faire l'actualité bientôt, parce qu'ils ont quand même été menacés de dissolution par le ministre.
Ça sent le tarnaquage Le Julien Coupage à plein nez.
Exactement, moi ça nous fait rire là, mais bien sûr, donc... Voilà, c'est une excellente idée de faire une émission prochaine sur les soulèvements de la Terre. Et donc oui, il y a des collectifs antifascistes, il y a des partis politiques, donc évidemment des partis politiques plutôt de gauche, hein. Il y a des associations de protection de l'environnement. Il y a beaucoup, beaucoup de gens différents parce que c'est vraiment une question centrale. Et ça faisait un certain temps que je n'avais pas milité, je me remets dans le bain. Et c'est très surprenant pour moi de voir cette convergence des luttes, quoi. C'est vraiment un sujet qui cristallise beaucoup de luttes différentes, tous ces gens qui se mettent ensemble.
Mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui boivent de l'eau. Hein.
et oui, on a beau être un pays d'alcooliques, il y a quand même beaucoup de gens qui boivent de l'eau.
Scientifiquement, c'était assez limite aussi quand même.
Pardon, je suis désolée, je suis sortie de ma neutralité, de la neutralité de la posture scientifique.
Je comprends que Total te finance pas.
Ouais, en même temps, je leur ai jamais demandé de pognon, donc ça va, ça... Oui, et donc, il y a eu depuis un peu plus d'un an maintenant une convergence avec les soulèvements de la Terre. Donc, la lutte a pris une proportion un petit peu plus grande d'un seul coup. Et puis, il y a donc régulièrement, oui, beaucoup de connexions avec la Confédération Paysanne. Et donc, justement, moi, au niveau de tout ce qui est quel modèle agricole il faudrait développer ou quoi, moi, ça ne va pas du tout être mes compétences. Je vais plutôt, par contre, essayer de travailler avec des... Enfin, on commence à avoir des connexions, justement, avec la Confédération Paysanne. Pour travailler ensemble, comment on comprend le système, quelle agriculture on met en place qui soit viable, qui nous amène à manger, parce que c'est quand même ça le principe, qui soit pas trop pénible pour les agriculteurs non plus, et qui soit saine pour les agriculteurs, parce que le modèle intensif, on a tendance à l'oublier, mais le nombre d'agriculteurs qui ont eu des cancers avec tous les pesticides et les engrais qu'ils mettent dans les champs, c'est quand même énorme.
C'est ce que je disais en préambule de l'épisode dernier, là, on a parlé que de quantité d'eau et pas de sa qualité et de toutes les saloperies et les poisons qu'on trouve dedans, hein, qui se terminent en cidre, en zate, en... et les molécules qui se dégradent pas, enfin bon voilà.
Ouais, et puis du coup ouais, je voudrais profiter quand même de ce moment parce qu'on a peut-être un peu trop tapé quand même sur les irrigants et surtout mis tout le monde dans le même panier en fait. Je voudrais revenir dessus sur le fait qu'il y a quelques exploitations, quelques très grosses exploitations qui imposent un modèle. Il y a énormément d'agriculteurs qui sont pris dans un modèle productiviste mais qui ne leur bénéficient pas à eux. On sait très bien que la plupart des agriculteurs, ils ont du mal à sortir un salaire. Ils travaillent énormément, ils n'ont jamais de vacances, ils finissent avec des corps brisés quand ils arrivent à la retraite. Ils n'ont pas les carrières complètes arrivés à la retraite, etc. Donc, en fait, beaucoup de ces irrigants se retrouvent voilà, pris dans cette spirale infernale. Comme tu disais tout à l'heure, ils voient arriver le mur. On a rencontré avec Bassine Non Merci des gens du comité de bassin Loire-Bretagne récemment. Il y avait deux anciens irrigants dans la délégation qu'on a vue. Bah, à la fin de notre discussion, on arrivait à peu près quand même à se parler parce qu'eux, ils le voient bien, que c'est viable que pour les très gros, que les nouveaux arrivants, non seulement quand on est jeune agriculteur, c'est pas facile d'avoir accès aux terres, mais en plus maintenant, il faut avoir accès aux terres avec le volume autorisé par la préfecture pour l'irrigation en été. Enfin, c'est devenu encore plus un business. Les terres, elles se revendent avec l'autorisation préfectorale. Donc, comme justement, nous, on essaie d'amener un discours, c'est pour ça que je veux revenir dessus, sur le fait qu'on n'est pas contre les agriculteurs, bien au contraire. On n'est pas contre l'agriculture. Maintenant, le modèle imposé par très peu, qui n'est rentable que pour très peu, oui, ce modèle-là, on est contre. Maintenant, bah, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Comment aménager le territoire et tout ça? Bah là, il faut travailler, à mon sens, avec les gens qui, pour moi, connaissent le terrain, donc avec les agris, quoi. Voilà.
C'est bientôt la fin de cette conversation avec la géoscientifique Anne Morouen-Pastier, membre du collectif Bassine Non Merci.
Dans cette pluralité de compétences de Bassine Non Merci, c'est beau, hein ? On utilise beaucoup le langage de l'éducation populaire dans ce collectif.
Vous faites des trucs comme ça avec les mains, là, quand vous êtes d'accord.
Oui, et bon, autant des fois ça me fait rire, autant bah faut bien dire que quand on a des réunions à 40, c'est bien si tout le monde dit pas « ouais, moi aussi je suis d'accord ». Voilà. Donc c'est très très bien, c'est très très bien.
Je suis hyper d'accord avec ce que tu viens de dire. Non mais voilà, enfin, le fait qu'en face il y a des cerveaux et des gens et des êtres humains qui réagissent et que ça s'appelle notamment les soulèvements de la terre ou Bassine Non Merci ou la Confédération Paysanne ou machin. Et que oui, voilà, sortir d'un truc manichéen, c'est pas les bons, les méchants et il y a une guerre en face c'est tous des cons. Et oui, il y a longtemps qu'on sait que beaucoup d'exploitants agricoles sont pris par les couilles, par le Crédit Agricole, par Monsanto, par un machin, qu'en plus ils peuvent attraper le cancer au bout d'une vie à se faire traiter comme des esclaves. Oui. Tout cela est-il bien raisonnable? Probablement pas.
Mais donc, ouais, c'est une de nos perspectives. Donc, je suis arrivée récemment dans le collectif, hein, depuis quelques mois. Même si je connais la lutte depuis des années, je connais des gens du collectif de longue date. Et donc, on monte un peu ce groupe d'investigation scientifique. Donc, le désarmement du rapport du BRGM, c'est le premier gros épisode. On a commencé à sortir des petites chroniques qu'on va publier sur les réseaux sociaux plus largement et sur le site de Bassine Non Merci, qui s'appelle les C'est pas sourciers, pour expliquer justement comment ça se passe en vrai le cycle de l'eau, ou comment, bah là, il donne ça comme argument, mais en vrai, ça tient pas la route. Voilà. Moi, j'ai attaqué ce rapport parce que stratégiquement, c'est l'arme d'en face, donc bah, je voulais le désarmer. Mais aussi, c'était une manière pour moi d'accrocher le sujet, quoi. C'est un sujet très vaste, je savais pas trop par où le prendre, je l'ai pris par là. Et là, il y a un vrai petit groupe de travail qui s'est mis en place, qui est assez efficace. Et du coup, on va maintenant pouvoir faire vraiment le lien avec des gens de la Conf, de la Confédération Paysanne, pour commencer à voir, bah, entre les gens comme moi qui donc, ont des grandes idées un peu perchées, de laisser les cours d'eau tout libres, et puis bah, comment concrètement on peut faire dans les champs pour appliquer ce genre de grande philosophie. Bah, c'est le travail qu'on va se mettre à développer dans les mois qui viennent.
clore aussi sur le collectif Bassine, non merci, etc. Et ce qu'on se disait aussi tout à l'heure sur le fait que ça se fait pas sans humour. Si cette conversation à bâton rompu vous a semblé des fois protocolairement pas hyper scientifique, tant mieux. Si on vous a fait sourire, tant mieux aussi. Parce que je voudrais clore aussi là-dessus. On n'a jamais fédéré ni gagné quoi que ce soit sous des bonnets de nuit en faisant la gueule. Bon, on a bien compris hein, que la situation est catastrophique, n'engendre pas la joie. Mais bon, ça ne doit pas nous faire déprimer. Et je crois que la lutte, elle doit être heureuse et rigolote aussi. Parce que sinon, on va se prendre une pilée, quoi. Et donc, voilà, merci pour le travail scientifique que tu fais, pour les informations, mais merci pour la vitalité et pour le sourire. Je crois qu'on a vraiment besoin de ça, et puis de pratiquer ça et de le faire ensemble. C'est mieux quand c'est rigolo quand même. Merci beaucoup.
Ouais, justement, je voulais dire que les manifestations organisées par Sinon Merci et les soulèvements, elles peuvent faire peur quand on voit les images à la télé, les images dans les médias avec ces gardes mobiles en Robocop et tout ça. Bon, je voudrais pas minimiser, hein, c'est pas faux qu'ils y vont très très fort, mais il y a vraiment une ambiance dans ces manifestations, et puis on a le camp le soir où on a les concerts, les rencontres. Moi j'ai rencontré des tonnes de gens, j'ai monté même des projets scientifiques qui sont partis de la manifestation de Sainte-Soline. Donc ouais, j'encourage vraiment tout le monde à venir avec, évidemment, bon, sa tente, son duvet, possiblement ses propres ressources en eau. Le 25 mars dans le Poitou, voilà, faudra suivre les réseaux sociaux pour avoir plus d'infos au fur et à mesure. Mais ouais, il y a vraiment cette ambiance assez particulière qui mêle beaucoup d'influences entre un peu des hippies du marais, des autonomes encagoulés, des vieux des duc pop, enfin des vieux ou des jeunes aussi d'ailleurs, hein, des vieux faucheurs volontaires, parce que là pour le coup, voilà, quelques scientifiques. Ouais, il y a vraiment beaucoup de gens différents, il y a vraiment une très bonne ambiance sur place. Moi, j'ai rencontré des gens formidables et on a tous été dans le collectif très émotionnellement chamboulés par cette manifestation qui nous porte encore des mois après. C'est ça qui nous donne la niaque. On sait qu'on va en chier, mais on sait qu'on va passer un super moment le 25 et le 26 mars, quoi.
Et voilà les amis, c'est ici que prend fin cet échange avec la géoscientifique Anne Morwen-Pastier, qu'on remercie à nouveau. Émission à retrouver sur notre site, polémix et lavoixoff.com, avec tous les épisodes de cette série SOS H2O, au secours. Bassine, non merci, no basaran, ce n'est qu'un combat. Continuons le début, salut.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.